Salut, c'est Simon, le cofondateur de Scrib. Scrib, c'est la plateforme qui te permet de collecter un maximum de feedback utilisateur pour t'aider à construire de meilleurs produits. On est hyper fiers d'accompagner cette nouvelle saison d'Epic et de vous permettre d'accélérer votre apprentissage produit. Alors à très bientôt sur Scrib, avec deux E comme Epic.
Un podcast du Média Le Ticket.
Salut et bienvenue dans Epic, le podcast du ticket qui te raconte les coulisses d'aventures produits par la voix de celles et ceux qui les ont vécues. Voici la troisième partie de notre série spéciale sur la fonctionnalité Boost de BlaBlaCar. Dans le deuxième épisode, on a vu les péripéties de BlaBlaCar avec la nouvelle concurrence des bus et la pandémie, qui ont bouleversé la roadmap produit. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée d'une fonction clé dans la vie de Corridoring, qui s'apprête à devenir Boost, le Product Marketing. Bon épisode.
Alors Nicolas, on arrive maintenant en 2021. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe chez BlaBlaCar et en quoi ça influence justement l'évolution de ce qui deviendra très bientôt Boost, ouais. Enfin.
Exactement. 2021, bon déjà premièrement, on commence à sortir du Covid, donc ça c'est plutôt positif. Donc il y a un regain, on est reparti, on est en phase où on se dit bon ça y est, on est reparti pour redécrocher la Lune. Il se passe plusieurs choses en fait cette année-là, et j'expliquais juste avant, mais j'appelle ça les étoiles s'alignent, mais après coup, hein, les étoiles se sont alignées sur le moment, je ne voyais pas vraiment. Mais il y a plusieurs choses. Il y avait une étude qu'on avait faite sur Zero Empty Seats, donc je ne sais pas si tu étais encore là quand on l'avait fait, mais en gros, sur prouver que ça avait vraiment un impact positif sur l'environnement, hein, le fait de covoiturer. Il y a ce truc-là qui se passe. Il y a le fait qu'on se retourne et qu'on se dise, ça fait pratiquement 15 ans là, que BlaBlaCar ça existe en fait, et on a construit beaucoup de savoir en fait sur notre plateforme et sur notre activité. Il y avait pendant très longtemps beaucoup de discussions autour du marketing, en tout cas dans l'expérience, d'un côté produit design. Si je remets le contexte, hein, c'est une boîte tech, hein, et souvent le marketing dans une boîte tech, c'est souvent très, très mal vu. Si mon produit il est très bien, j'ai pas besoin de le vendre. Pendant longtemps, on entendait des blagues en interne du type ton design, si t'as besoin de l'expliquer, c'est comme une mauvaise blague. Tu vois. Si t'as besoin de l'expliquer, c'est que c'est une mauvaise blague. La réalité, c'est qu'en fait, le vendre une feature, l'expliquer, ça fait partie intégrante d'une solution design. Et donc, il y avait eu, c'est un sujet qui était là depuis longtemps, mais sur lequel on voulait, on se penchait, et qui avait en fond, du coup, cette histoire de se dire, il faudrait qu'on travaille nos expériences un peu plus end-to-end. Pendant très longtemps, avec Carl, l'expérience, c'était, j'arrive dans l'app, je ressors de l'app, c'est ça l'expérience. En fait, il se passe énormément de choses avant, il se passe énormément de choses après. Et puis, quand tu regardes la journée, en tout cas le voyage de quelqu'un qui voyage, l'application, c'est une infime partie de son expérience. Il peut se passer des choses avant, il peut passer des choses après. Et il faudrait qu'on connecte un petit peu tous ces moments-là. Et en fait, ça se fait un peu opérationnellement, c'est-à-dire qu'on se dit, il faudrait connecter la brand, il faudrait connecter le produit, il faudrait connecter ces choses-là. Mais en fait, entre les deux, il y a un peu un vide qui est product marketing, et qui est un peu nouveau, hein, quand on en parle. C'est pas encore hyper développé. C'est de se dire, en fait, il faudrait qu'on ait des gens qui nous aident à aider à vendre une feature, à faire plus de marketing. Et ça vient de plusieurs choses, hein, du fait qu'on le voit chez les autres aussi. Tu vois, Airbnb sont très forts à le faire, Uber, ils le font très bien. Et en fait, nous, on le fait pas du tout. Et en fait, on s'est mangé au fur et à mesure des années plein de murs comme ça. On a travaillé sur plein de sujets où on se disait, tiens, on a lancé. Puis tu te poses la question au dernier moment de... Attends, on dit quoi? On le vend comment? Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens? Et en fait, on ne sait pas trop. Et on le fait avec notre pragmatisme produit et on n'est pas forcément très bon là-dessus. Donc, il y avait toutes ces discussions. Et puis, 2021, c'est un peu le moment où tout ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a un changement organisationnel dans l'équipe produit. C'est-à-dire que d'un coup, on était product, design, contenu, research. Et puis, on se dit, on va essayer d'aligner beaucoup plus de monde en interne sur des mêmes sujets. Et on va aller rajouter là-dedans du product marketing de la marque et se dire on va travailler de concert sur des mêmes sujets pour avoir une expérience end-to-end intéressante. Et pourquoi on parle du product marketing ici, c'est parce que moi c'est l'élément qui a permis de faire un gros pas en avant sur Corridoring. C'est-à-dire que je sais plus comment ça arrive, mais en gros, le fait d'avoir product marketing qui arrive, on a, on se repenche un peu sur les sujets qu'on a chez BlaBlaCar, et en fait, on s'était un peu listé toutes les features sur lesquelles on n'a jamais communiqué et qui pourraient peut-être être intéressantes de communiquer. En fait, on se dit, comme toujours, il y a des choses sur les sujets. En fait, ça serait intéressant de communiquer pour rendre plus clair le sujet, sur d'autres peut-être un peu moins, mais il faut qu'on s'organise à mieux faire ce truc-là. Et corridoring, c'est un de ces sujets-là. C'est-à-dire, en fait, peut-être que c'est un des trucs où on n'est pas bon et on le voit. On n'explique pas très bien, en fait, les gens, et qu'après tant d'années, là, ils comprennent toujours pas qu'est-ce que c'est corridoring, quoi. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je le désactive? Pourquoi je le reçois? Il y a toutes ces problématiques-là. Et donc, du coup, on repart sur une boucle de discovery avec un angle très, la problématique, c'est celle-ci, c'est je comprends pas ce que c'est. Et donc, c'est aussi un peu un sujet crash test du product marketing. C'est-à-dire, comment prouver que product marketing, ça a de la valeur? Et je crois que corridoring, c'était le bon sujet sur lequel on devait travailler.
Et d'ailleurs, c'est assez emblématique, mais là, du coup, tu nous parlais de corridoring, et c'est le moment où vous changez de nom, ça s'appelle plus corridoring, ça s'appelle Boost, et en fait, c'est la même chose qu'il y a derrière. C'est quoi le processus qui vous amène à changer de nom? Qui est symbolique, mais...
Et sachant que ce qu'on peut aussi dire, c'est que corridoring, les utilisateurs ne savaient pas que ça s'appelait comme ça, c'était en interne, mais par contre,
exactement.
Alors que Boost, ça devient une fonctionnalité qui est communiquée à l'externe.
Exactement. Et ça fait partie de la discovery, c'est-à-dire que effectivement, un des problèmes, c'est que nous, on l'appelle corridoring, mais à l'extérieur, ça n'a pas de nom. Et les gens appellent juste ça des arrêts que j'avais pas déclarés, quoi. C'est des trucs que j'ai pas déclarés et qu'on me propose. C'est pas très clair. Et donc, du coup, ça fait dans la discovery. Moi, il y a un truc, encore Rémi Guillaume, il m'avait dit une chose une fois, et je l'ai retenu, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il est très fort. Et il a raison. Il dit, le changement, tu l'opères avec deux choses. L'événement et les habitudes. Et en fait, quand tu reprends du recul sur corridoring, en fait, on a vu beaucoup d'énergie sur l'habitude, mais sur l'événement, on n'a pas été très bon, en fait. C'est la partie explication. Il n'y a pas un truc qui te dit bam, nouveau, c'est un nom, c'est un truc, c'est un moment clé de ton expérience. On ne t'explique pas du tout. Et je crois que c'était un petit peu ce truc-là se prouvait assez bien avec ce sujet-là. Donc on passe dans cette phase de discovery et on reprend nos insights et en fait on revient toujours à la même conclusion, c'est on n'a pas de nom. C'est sûr. Il faudrait peut-être que ce truc-là, ça soit un peu brandé. Il faut qu'il y ait peut-être une marque. Et parce qu'en fait, ça s'inscrit aussi dans une vision un peu plus large de se dire, en fait, t'as 15 ans de BlaBlaCar qui a construit un savoir. Et notre force à nous, c'est un peu notre algorithme, en fait, hein, de matcher les gens. Et cet algorithme, en fait, tu vois qu'il y a peut-être des possibilités beaucoup plus larges de se dire, en fait, on pourrait contrôler effectivement le matching, on pourrait contrôler le prix, on pourrait contrôler plein de choses. Parce qu'en fait, à un moment... avec notre savoir, tu peux être bien meilleur à faire remplir les voitures, à donner le bon prix pour trouver des passagers. Donc il y a une espèce de contexte de fond aussi qui nous dit ce sujet-là, il peut rentrer dans cette histoire d'algorithmie qui est un avantage BlaBlaCar sur lequel il faudrait qu'on capitalise. Donc tous ces éléments un peu alignés, on arrive à se dire il y a effectivement... Boost. Alors le nom, on a travaillé plein, on a travaillé avec la marque sur quel nom ça pourrait être. Et il y a eu plein de débats et je me rappelle plus là, mais en gros il y a eu pas mal de benchmark aussi de mais qu'est-ce qui un, c'est quoi une feature qui te propose plus que ce que tu avais prévu. Et en fait on n'a pas, c'était un peu le nom qui ressortait le plus souvent, c'était ça. C'était en fait notre objectif là-dessus, c'est de te faire remplir ta voiture. Et en fait, l'algorithme, c'est un coup de boost pour t'aider à faire ça. Boost, c'est un nom court, c'est un nom qui est marquant, donc tu te rappelles, et qui marche bien, et qui pourrait marcher pour d'autres choses que le remplissage de la voiture, qui pourrait booster ton prix, qui pourrait booster plein d'autres choses.
Ce qui est intéressant, je trouve, en termes de mindset, c'est que corridoring, ça décrit une fonctionnalité, c'est ce que tu nous disais, en fait, ça décrit même un algorithme où tu as un couloir, et c'est vraiment le sujet technique qu'il y a derrière. C'est tourné vers BlaBlaCar. Boost, c'est tourné vers l'utilisateur, ça vous booste dans votre expérience. Et c'est marrant, ce que tu introduis là, c'est en fait, même dans la manière dont vous namez vos projets en interne, on voit un shift, c'est on passe d'une boîte, en tout cas d'un projet tech-produit, à un projet tourné vers l'utilisateur et qui doit être compris par les utilisateurs et non plus caché derrière le fonctionnement global. Donc je trouve ça assez intéressant et en t'écoutant, en tout cas, c'est ça que ça génère chez
moi. Ouais, et c'est là aussi la grande valeur du product marketing, quoi. Et je pense que c'est intéressant même en termes de nommer les projets en interne. Je crois que c'est même bien de se dire, tu fais un espèce de grand écart de, tu donnes pas un nom de solution ou, enfin, t'essayes d'avoir un truc qui ressemble pas à une solution, c'est juste un mot technique, un nom technique que tu vas utiliser juste pour reconnaître le projet. Et le product marketing est là pour lui donner en tout cas un nom et surtout définir de value proposition. Et donc c'était ça aussi la deuxième partie de ce sujet-là, c'est de se dire en fait, ils savent pas, enfin, ils ont, il y a pas de nom, ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas, et en fait, pour leur faire comprendre, bah, faut peut-être leur expliquer. Et là, le truc sur lequel on s'aligne à cette époque, c'est en fait, Boost, c'est un algorithme qui te permet de remplir ta voiture, qui t'aide à remplir ta voiture. Ça, c'est vraiment le positionnement sur lequel on se pose et sur lequel on va aller faire des user tests pour aller un peu crash tester notre hypothèse. Et hypothèse qui était la bonne. Je crois que c'est très rapide, tu te rends compte que d'un coup, ça devient l'évidence. C'est-à-dire que les gens, ils te disent « Ok, je comprends bien en fait, je recevais des trucs qui n'étaient pas prévus. » Et en fait, tu vois bien que dans leur tête, ils ont en effet une espèce de séparation entre « il y a le prévu ». Ça, c'est tous les trucs BlaBlaCar classiques. Et il y a le pas prévu, c'est Boost. Et dès que je vois Boost, j'ai compris que c'était un truc qui est prévu par personne. Et c'est pas une demande, enfin, c'est pas forcément un passager qui négocie. C'est BlaBlaCar qui a été trouvé quelqu'un parce que c'est un algorithme. Et en fait, je peux, en tout cas, la manière dont je regarde ces demandes, elle est très différente que quand je regarde une demande classique. Et du coup, je fais bien la part des choses entre les deux.
Et est-ce que dans le produit, justement, ça se matérialise? Est-ce qu'il y a, je sais pas, dans l'expérience, est-ce qu'il y a une différence? Par exemple, quand quelqu'un reçoit une demande Boost, est-ce que c'est indiqué Boost cette fois-ci?
Ouais, exactement. Alors, en interne à l'époque, c'était marrant. On disait qu'on avait pas changé Corridoring. On avait juste rajouté un chapeau et du rouge à lèvres, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, c'est ce qui est derrière ta question, c'est qu'effectivement, d'un coup, et c'est pareil, hein, souvent quand il y a quelque chose de nouveau dans une équipe produit, design, en fait, tu y vas au maximum. Et sur l'expérience, effectivement, côté conducteur, t'as un espèce de, quand tu reçois une demande de réservation, t'as un mot Boost en gros en haut sur un fond bleu dégradé avec une fusée, et puis t'as des écrans d'introduction, c'est-à-dire qu'en fin de publication on t'introduit la feature en disant bah voilà, t'as un petit astronaute sur une fusée qui va décrocher la lune et qui te dit en fait on va aller trouver des opportunités d'aller maximiser le remplissage de ta voiture. Ouais, on y met beaucoup d'efforts, on essaye, c'est très tranché en fait, c'est-à-dire que BlaBlaCar pendant très longtemps c'est la rigueur, quoi, c'est très froid, hein. Franchement, tu ouvrais l'application BlaBlaCar à l'époque, c'était très clinique, hein. C'est-à-dire c'est moins fun que Doctolib, et là d'un coup tu fais un espèce de grand écart en disant bah là on y va au maximum et on tranche et on a un truc brandé, on a des illustrations, on a de la couleur et on essaye de marquer la différence avec cette feature.
Qu'est-ce que ça change justement l'arrivée de Boost, de tout ce product marketing dont tu viens de parler? Est-ce que ça a eu des effets concrets sur les indicateurs que vous suiviez?
Alors sur la partie acceptation rate, donc le taux d'acceptation, un peu, mais ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'on a mis du rouge à lèvres. Donc on le voit un petit peu, le sujet là c'était que nous on cherchait surtout à prouver qu'on avait une meilleure awareness. Et sur ce sujet-là, on était bon. C'est-à-dire que là, on avait fait on avait envoyé un questionnaire à un moment, donc c'était un moment, c'était sur plusieurs pays, hein, où on se rendait compte que tu avais quand même la grosse majorité des gens qui comprenaient, en fait, qui savaient faire la différence entre un truc prévu, pas prévu. Ils te citaient de manière assez naturelle, c'est Boost, c'est le machin bleu que je vois. Donc sur la partie awareness, on était vraiment très très bon, et je crois que ça, c'est la partie de la problématique qu'on a réglée avec le product marketing. Par contre, sur le taux d'acceptation, pareil, on est toujours un peu, c'est un peu mieux, mais en fait, on est toujours, on n'a pas craqué le truc, hein. On a toujours, ouais, ça. Et puis, on a toujours les mêmes feedbacks de fond, quoi, qui sont, bah, je comprends mieux, mais j'en veux toujours pas, en fait. J'en veux toujours pas. Et donc, du coup, je refuse. Et ce qu'on voit surtout très rapidement, c'est que c'est marrant. Alors là, il y a un autre changement qui est, encore une fois, on se décroche de Boost, hein, on va travailler sur un autre sujet en interne sur lequel on va mettre beaucoup d'énergie, qui est le porte-à-porte, et qui va nous défocus un peu de Boost. Le truc, c'est que, alors, si je parle de moi, j'ai l'impression que moi j'ai des gut feeling, c'est-à-dire que j'ai mon préfrontal qui travaille, qui voit des infos, qui tu vois, qui digère et qui me fait avoir un avis sur quelque chose, mais des fois je suis pas très, c'est juste des signaux. Et en fait, quand on a lancé ce truc-là, moi je me disais, c'est marrant, je comprends mieux, je comprends Boost, mais moi quand je le regarde, quand je vois un peu ce que les gens nous disent et tout, je me dis toujours que je comprends pas, je comprends pourquoi, je comprends ce que c'est. Maintenant, Boost, je vois ce que c'est, mais en fait, tu comprends toujours pas pourquoi tu les reçois. Et en fait, il y a un peu ce petit gut feeling qui est resté en toile de fond pendant un moment où je me disais, moi, je crois qu'on l'a pas encore craqué ce truc-là, et en fait, il faudrait faire mieux. Et je crois que le fait, parce qu'on a fait tout ça sans bouger le curseur de quantité, je crois qu'en fait, il y a un moment, il faudrait que tu reviennes plus sur de la qualité, que tu sois un peu plus précis, et que ça soit plus logique. C'est-à-dire que tu fais comprendre ce que c'est, mais il y a un moment, il y a plein de fois où ça n'a aucune valeur. Tu prends un trajet A à B sur un Paris-Lille. En fait, quand tu viens de publier ton trajet et que la première demande que tu reçois, c'est une demande Boost, en fait, si tu as l'habitude sur ton baril, tu sais que tu vas trouver des passagers. Et de prendre en premier quelqu'un qui va être qu'une partie de ton trajet, en fait, c'est moins intéressant que quelqu'un qui va faire ton AB. Donc il y a pas mal de use case comme ça, de cas d'usage sur lesquels on n'est toujours pas très bon et sur lesquels, moi, je pense qu'il faudrait travailler. Mais donc, du coup, là, en interne, il y a effectivement ce sujet door-to-door, enfin, porte-à-porte, qui vient, pareil, reprendre un peu tout la concentration des équipes produits de BlaBlaCar. Et ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est qu'en fait, il y a un truc, pareil, que j'ai appris chez BlaBlaCar, c'est que pour faire de l'influence, il y a... moi, je me dis toujours qu'il y a... C'est de la répétition, c'est de la patience, il faut attendre l'opportunité, et quand il y a l'opportunité, t'ouvres la porte et il faut faire quelque chose. Et en fait, c'était un peu... sur Boost, c'était un peu ça, là. On n'allait pas travailler dessus, mais il fallait le craquer à un moment. Et puis, en fait, on ne veut pas vraiment l'entendre. Hein. C'est quand même une feature qui a quand même qui a une bonne part des revenus. Et puis, dire que ça ne fonctionne pas après 7 ans, ça commence à devenir un peu compliqué et tu n'as pas vraiment envie de l'entendre. Donc, il y a ce truc de fond qui reste un peu... et moi, je fais un peu j'apprends, hein, je ne suis pas très, encore super bon à ça, mais je fais un peu mon tour des popotes où je le dis un peu à tout le monde. Je me dis, tiens, je vais un peu passer mon message. Moi, je crois qu'on ne l'a pas encore craqué. Moi, je n'y crois pas encore. Je crois qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Je crois qu'il y a machin. Et puis, les gens, oui, très bien. Tu vois, ça se passe, le message passe, mais on ne fait pas grand-chose. Hein, on est focus sur porte-à-porte. Et en fait, sur porte-à-porte, il y a un truc intéressant, c'est qu'à un moment, on travaille sur porte-à-porte et c'était le sujet de se dire, en fait, on pourrait demander à des conducteurs maintenant pour justement pour toucher plus d'argent, de récupérer des gens en bas de chez eux et les déposer en bas de chez eux. C'est-à-dire qu'ils font plus d'efforts, mais par contre, ils pourraient avoir un petit surplus sur le prix du voyage. Et il y a la grande question qui se pose mais est-ce que ce porte-à-porte, c'est Boost ? Et en fait, ça, c'est un peu l'opportunité, un peu dans mon framework, la répétition opportunité, c'est un peu l'opportunité de me dire, en fait, c'était hyper compliqué d'introduire ça dans l'environnement BlaBlaCar, parce que même la cible est un peu différente du porte-à-porte. C'est les gens qui ont peut-être plus les moyens. Et en fait, en faisant un peu le diagnostic de « Ah, mais qu'est-ce qui marche pas ? Enfin, comment ça pourrait marcher avec Boost ?» En fait, tu revenais toujours à... En fait, le problème, là, c'est pas tant est-ce que porte-à-porte, c'est Boost ? C'est plutôt Boost, c'est un peu une épine là qu'on a dans le pied et qu'il faut régler. En fait, il y a toujours un problème de ce côté-là et il faut le régler et ça marchera pas parce qu'en fait, t'as toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est encore un truc que tu vas recevoir que t'as pas prévu. En plus là, tu vas avoir un côté je paye plus et c'est pas forcément sur tous les trajets. Enfin, c'est compliqué et tu dis en fait, il y a peut-être un truc à craquer. Et donc, ce qui se passe et qui est intéressant, c'est que sur la partie action, et là c'est pas moi, c'est que je sais qu'à un moment l'info elle remonte un peu au Stirco, où on essaye de mettre en avant un peu, remettre en avant les insights qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a refait un questionnaire et on se dit, en fait, tu vois bien, hein, la awareness, elle est bonne, mais il y en a quand même plein de gens qui se plaignent. En fait, ils se plaignent parce que c'est chiant, parce qu'ils en reçoivent trop, parce qu'on a des problèmes. Et puis, en fait, ce qu'on se rend compte quand on creuse, c'est que tu viens de créer, t'as un peu des effets de bord de, ils ont compris maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils voient, ils se disent trop bien, ça c'est cool, ça m'envoie des opportunités, mais que quand ça m'intéressera. Et en fait, le truc, c'est que bah, on a un taux de refus qui augmente. Donc, on a des gens qui refusent plus. On a des passagers qui disent « Attends, mais avant, j'envoyais une demande, j'avais une acceptation ou deux demandes, ça allait. Maintenant, ils sont à 5-6. C'est-à-dire que j'ai besoin d'envoyer 5 demandes pour avoir une acceptation. Ça ne marche pas, votre truc. » et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Attends. On avait un sujet aussi de temps de réponse beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'on avait des passagers, pas pareil, en fait, ils disaient, j'envoie une demande et puis en fait, j'ai pas de réponse pendant longtemps et en fait, moi, j'ai besoin de voyager et comme Babacar, c'est du quatuor, c'est surtout du last minute, ça crée problème. Donc, il y a plein de problèmes de bord qui se créent avec Boost et le fait d'avoir mis de l'awareness dessus. Qui sont problématiques et sur lesquelles il faudrait travailler. Et ça remonte un peu au Stirco et je crois qu'il y a un espèce de moment de, en tout cas de ce que j'en ai entendu, de réalisation de « Ah mais on est en fait en train de se tirer un petit peu une balle dans le pied là, les gars. Il va peut-être falloir qu'on s'y repenche. » Et donc je crois qu'il y a ce truc-là et il y a un peu le « par ce biais-là, moi j'avais... Donc à l'époque, c'était un designer qui travaillait sur la partie porte-à-porte. Et je dis « Oh putain, il y a peut-être une opportunité là dans le Stirco d'aller montrer un concept en fait. » C'est un des trucs que j'ai appris aussi sur le design. Des fois, on n'est pas très bon à vendre. Mais le meilleur argument qu'on a, c'est de montrer un concept, de montrer un design, de montrer un écran. Et en fait, on avait travaillé des écrans en disant, mais en fait, regarde, peut-être que Boost, c'est un truc où la value proposition, c'est pas celle-ci. C'est je te trouve des passagers dans le cas où t'en aurais pas trouvé. Et puis, en fait, il y a une histoire de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, ils vont regarder beaucoup le nombre de fois où il a été vu leur trajet. Peut-être qu'il y a un sujet autour de l'attractivité de mon trajet. Et s'il n'est pas attractif, en fait, tu comprends. Tu te dis, bah, il n'est pas attractif, donc on t'a proposé un boost. Et peut-être que ça serait plus clair d'être un peu plus quali et de faire comprendre la feature de cette manière dans le produit. Donc, il y a un peu ces deux événements qui se passent. Et c'est un peu l'opportunité qui nous fait dire bah putain en fait il faut qu'on remette de l'énergie sur Boost et on va le remettre dans la roadmap, on va y refaire un petit tour, on va faire de la rediscovery de Boost.
Et ça va être l'objet du dernier chapitre de conclusion de cet épisode.
Si tu veux écouter le chapitre 4, le dernier de cette aventure, rendez-vous très vite pour le quatrième épisode de cette série spéciale sur la fonctionnalité Boost de Blablacar. À très vite !